radiodespsychezvous.com.
La psychanalyse vivante dans le sillage de Freud, Dolto.
Mais si tout va bien, pas besoin d'aller chez le psychanalyste, disait-elle.
La psychanalyse ne sert absolument pas à comprendre ce qu'on n'a pas du tout besoin de comprendre, puisque ça marche.
Et Lacan,
il nous disait en son temps, les mots peuvent avoir 5, 10, 15, 20 sens différents.
C'est un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi.
La psychanalyse vivante, présentée par Sabine Brodès.
Docteur Juan David Nacio, bienvenue sur notre radio des Psys chez vous. On ne vous présente plus, cependant, je rappellerai pour nos auditeurs qui sont moins proches de la psychanalyse mais désireux de s'en éclairer, que vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous avez été élève de Jacques Lacan et proche de Françoise Dolto, enseignant à Paris 7, et vous avez fondé en 1986 et depuis dirigé les séminaires psychanalytiques de Paris. La liste de vos livres est trop longue pour être citée ici, mais on la trouvera sur le site de la radio. J'ai tenu à inaugurer ce cycle de la psychanalyse vivante avec vous, parce que vous représentez bien cette vivacité de la psychanalyse, tant votre force de travail et votre capacité à mettre au travail est importante. Alors, pour cette rencontre avec la psychanalyse vivante, je vous demande de nous parler des grandes étapes que vous avez traversées dans votre parcours. En effet, plus de 30 ans séparent le livre de l'inconscient à venir et les DVD que vous avez enregistrés sur qu'est-ce que l'inconscient et qu'est-ce que la sexualité de l'inconscient de Valoton plus récemment, album commenté par vous de l'exposition consacrée à ce peintre par la Fondation Valoton, exposition qui a eu lieu au Grand Palais à Paris du 2 octobre 2013 au 20 janvier 2014. De nombreuses interviews vous ont déjà été demandées sur cet ouvrage. Et j'aimerais que vous nous disiez, bien sûr, tout en étant consciente qu'il est impossible de résumer autant de chemins parcourus et de travail accompli, j'aimerais, disais-je, que vous nous parliez de quelques-unes des grandes étapes que vous avez traversées entre ces deux dates et qui ont fait évoluer votre pensée.
Eh bien, d'abord, je vous remercie de cet intérêt, Madame Brod, de pouvoir m'exprimer devant les auditeurs des psys chez vous et de vous dire que votre première question m'étonne parce que moi-même je n'avais jamais pensé que mon premier livre de 1980 et mon dernier livre de 2013 portent le titre du mot l'inconscient. Effectivement, le premier livre en 1980 s'appelait l'inconscient à venir. Oui. Surtout en pensant, c'était une paraphrase au poème de Mallarmé qui s'appelait Le livre à venir. Et Mallarmé m'avait inspiré ce titre de l'inconscient à venir. Et puis voilà qu'en 2013, je vais sortir cet autre livre, L'inconscient de Valoton. C'est-à-dire là, l'inconscient est pris comme une partie d'un être que c'est un peintre, Félix Valoton, qui est un peintre français d'origine suisse du début du XXe siècle. Valoton qu'il ne faut pas confondre avec Valadon. Madame Valadon, c'est une femme, Madame Valadon qui était la mère de Utrillo, eh bien Madame Valadon, c'est à peu près la même époque, mais sont deux noms différents. Madame Valadon était française, tandis que Monsieur Valoton était un peintre d'origine suisse. Mais venons à votre question, qui est, je suis très touché de ces deux extrêmes, l'un à la naissance, l'autre au moment où je considère que je ne suis pas à la fin de ma trajectoire, mais que l'inconscient des Valoton se situe pour moi presque au sommet de ma courbe idéale, qui est celle de mon travail, n'est-ce pas? Et c'est un peu pour moi, c'est un sommet, le livre des Valoton. Entre l'inconscient à venir et le livre des Valoton, il y a effectivement, il y a eu 24 livres qui ont été publiés. Et c'est bien votre question. entre le Nagio qui a écrit l'inconscient à venir et le Nagio qui écrit l'inconscient des Valotons, d'un certain point de vue, c'est le même. C'est le même, je pense que nous tous, tous ceux qui, d'autant qu'ils produisent, vous-même, Madame Brod, que vous travaillez avec la radio, j'en suis sûr que ce travail d'aujourd'hui, 2014, avec la radio, en fait, doit renvoyer à Madame Brod d'il y a 20 ans ou 30 ans, que certainement, on doit retrouver des points communs pour ce travail de communication, de diffusion d'une idée, d'une pensée, d'un esprit. Eh bien, le même chose m'arrive à moi. Je pense qu'entre le premier livre, 1980, et celui que je vais sortir maintenant, qui est une reprise du livre de l'inconscient de Valotton, qui va s'appeler Art et psychanalyse, qui va sortir maintenant en octobre de cette année 2014, eh bien, il y a le même Nagio, et en même temps, c'est différent. En quoi je suis le même? C'est très difficile à préciser. Je sens que cette mémété, cette part de moi qui reste la même, c'est un rythme physique, un rythme corporel qui est le mien et qui marque le rythme de ma pensée. À l'époque, en 1980, j'ai travaillé Lacan. L'inconscient à venir est un livre difficile, très lacanien, avec des articles qui sont durs à lire, dans le code lacanien, dans la langue lacanienne. Je considère que la théorie de Lacan et Lacan, c'est un dialecte et qu'il faut connaître, qu'il faut bien connaître, mais c'est un dialecte, ça veut dire que c'est un code. Eh bien, mais malgré le dialecte, je le parlais avec ce rythme qui est mon rythme de la voix, qui est mon rythme de la pensée, qui est mon rythme physique, qui, je pense que chacun de nous a cette tension interne qui va s'exprimer dans la pensée et dans la production de la pensée. Eh bien, pour moi, c'est le même Nagio avec ce même rythme corporel qui va se battre, à pétrir ces textes difficiles, ces textes lacaniens, et qu'en même temps, il va produire, à travailler, à réfléchir sur la vie et l'œuvre de ce peintre Félix Valotton. Donc, c'est ça le point commun, c'est le rythme. Quel est le point différent? Eh bien, autre point commun avant que je passe aux différences, c'est qu'il s'agit toujours de l'inconscient. Oui. Et grâce à vous, Madame Brod, je me rends compte que le thème de l'inconscient est un thème qui m'est cher, sans me rendre compte, et c'est que je m'aperçois maintenant qu'effectivement il est présent. Ça veut dire que cette notion de l'inconscient est le fil rouge qui traverse mon œuvre, mon travail. Et alors, quelles sont les différences? Eh bien, à ce moment-là, j'essayais de comprendre la structure en 1980. C'est le livre L'inconscient à venir, c'est essayer de saisir la logique de l'inconscient. Comment l'inconscient fonctionne dans la psyché d'un être. Et je l'appelais L'inconscient à venir parce que je trouvais que il fallait lui donner à cet inconscient, non pas en tant que masse du passé, mais fondamentalement que l'inconscient était aussi dans ce qui nous attend. L'inconscient est toujours à se produire, à venir. Là, par exemple, que je vous parle, l'inconscient va être, au moment où nos auditeurs vont nous écouter, et qu'il y aura un auditeur qui va à se sentir en communion, je dirais, avec ma parole, ma voix, ma pensée, mon message. Et c'est là qu'il y aura l'inconscient aussi bien de cet auditeur anonyme que je ne connais pas et mon propre inconscient. Donc l'inconscient est toujours un inconscient à venir, jamais un inconscient à venir. pas seulement passé, mais surtout à venir. Et puis aujourd'hui, l'inconscient des ballottants, c'est une autre approche. C'est l'approche d'un peintre où j'essayais de plonger, comme je dis maintenant, ce mot-là je ne l'utilisais pas en 1980, j'essayais de plonger dans le conscient et dans l'inconscient des ballottants et comprendre à partir de cette plongée émotionnelle, dans la plongée dans ses émotions, comprendre et mieux son œuvre, en quoi tel tableau est une projection de son inconscient. Et c'est ça la démarche mentale qui était la mienne, puisque je n'ai pas connu ballottant, puisqu'il nous est impossible de connaître l'acte de créer, comment un artiste crée-t-il, puisqu'il nous est impossible de le vivre au cœur de son acte, eh bien, j'essaye de l'imaginer, de le revivre mentalement, et c'est ça que j'appelle la plongée, c'est une plongée mentale, une plongée dans l'imagination, une plongée imaginaire dans la vie et dans la vie intime, dans le vécu intime du peintre. Et plus encore, pas seulement le vécu intime conscient, mais le vécu intime inconscient. Et c'est ainsi que j'ai fait une analyse des émotions inconscientes dont Voileton n'avait pas, ne réalisait pas qu'il les habitait, ces émotions, que ces émotions habitaient son être. Et qui, mon interprétation, me conduisait à considérer que ces émotions inconscientes étaient la source, c'est la source de sa création. Voilà la réponse longue, mais que je voulais profiter de cette belle question sur ces deux extrêmes qui sont l'inconscient à venir et l'inconscient des ballottants.
Oui. Là, vous rejoignez bien, de toute façon, nos patrons, Freud, Lacan, Dolto, en vous préoccupant de l'inconscient en permanence. C'est le fil directeur, en fait, de notre travail.
Oui. Absolument. C'est-à-dire que c'est ça qui est que mon travail est éminemment psychanalytique, car je suis convaincu que... Mais nous sommes convaincus depuis plus d'un siècle et que l'être humain est vécu par des forces qui sont en lui et qui ne contrôle pas, qui le gouverne et dans les choix cruciaux de sa vie. Et pour moi, les choix cruciaux d'une vie sont le lieu où on vit, le métier qu'on exerce et l'homme ou la femme qui a partagé ou qui partage notre vie. C'est ça, pour moi, les choix cruciaux de notre vie, le métier, le lieu et l'autre.
Oui.
Eh bien, je pense que l'inconscient s'exprime là.
Bien sûr.
Et que ce sont des forces qui sont en nous, qui nous poussent, nous animent, nous poussent à faire tel ou tel choix, à prendre telle ou telle décision. Je parle de décisions essentielles, n'est-ce pas ? Des actes essentiels dans la vie. Et c'est pour ça que finalement, l'inconscient, qu'est-ce que c'est que l'inconscient ? Bon, il y a tellement de définitions dans le seul célèbre de Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage, mais je dirais, sans nier cette définition qui me paraît essentielle, je donnerai une autre, c'est que l'inconscient, ce sont les forces, ce sont des mouvements ancrés dans le corps et qui nous poussent, qui nous gouvernent dans les manifestations majeures de notre vie. C'est ça l'inconscient. Et donc nous n'avons pas, bien entendu, conscience, et pourtant ces forces nous sont déterminantes.
Oui, bien sûr. C'est elles qui dirigent notre vie d'une certaine manière.
Absolument.
Est-ce que vous pensez que notre époque témoigne de l'actualité de la question de l'inconscient et du vivant de la psychanalyse ?
Est-ce que la psychanalyse est vivante, puisque puisque je vis, puisque vous vivez.
Oui.
La physique einsteinienne est vivante s'il y a des einsteiniens qui vivent. La vitalité, la présence vivante d'une science se mesure à la présence vivante de ceux qui la pratiquent. Eh bien, moi je considère que tant que nous serons vivants, la psychanalyse est vivante. Puisque nous sommes psychanalystes, je me considère psychanalyste, j'ai été formé comme psychanalyste, je forme des psychanalystes et je pense en tant que psychanalyste, j'écris comme psychanalyste et bien que ce soit à ma façon, à ma manière, avec ma modalité, que des collègues psychanalystes, je dirais, peuvent considérer que c'est la psychanalyse ou que ce n'est pas la psychanalyse, peu importe, je respecte cette opinion parce que pourquoi pas. La psychanalyse est suffisamment ouverte pour qu'on soit obligé à la redéfinir à chaque fois. C'est ainsi, hein, ça fait partie de notre discipline. Mais il est vrai que la psychanalyse est vivante parce que nous sommes vivantes et parce que nous la pratiquons. Quand on me dit Freud est dépassé, Freud est vieux, ça fait un siècle, mais vous continuez à penser en Freud, arrêtez, c'est une Bible. J'ai écouté, tant que cette Bible me fait vivre aujourd'hui, me fait réfléchir, que chaque fois que je lis un texte de Freud, je sens ma tête s'illuminer. Chaque fois que je pense avec les termes de Freud, et ma pensée s'éclaire, et ça m'aide aussi avec mes passions. Mais ma foi, Freud est vivante et actuelle.
Oui, tout à fait.
Pourquoi ? Parce que ma tête est vivante et actuelle.
Absolument.
Voilà pourquoi la psychanalyse est vivante.
Oui. Oui, quand on... Enfin... Les personnes qui vous disent Freud, la Bible, voilà, et puis est-ce que vous pensez encore avec Freud, est-ce que c'est parce qu'elles l'ont bien lu, ou est-ce que c'est parce qu'elles reprennent des vieux, voilà, des vieilles interprétations de droite et de gauche sans avoir bien lu dans le texte? Parce que quand on le lit, on s'aperçoit tout de suite que c'est très, très clair et très actuel.
Vous me demandez si ces personnes qui me parlent de que Freud est vieux, etc., vous me demandez si elles l'ont lu.
Oui,
ça.
Oui, c'est ce que je pense.
À la limite, peu importe,
oui.
Si vous me permettez, Madame Brode,
oui.
Peu importe qu'ils l'ont lu ou pas lu, ce qui m'importe, ce qu'ils l'entendent, une seule chose, c'est que ce questionnement tout à fait, je dirais, raisonnable, puisque c'est normal que quelqu'un qui est extérieur à notre domaine viennent poser la question de dire mais comment vous lisez, vous vous laissez guider par les écrits d'un homme qui a vécu il y a 150 ans. Donc c'est normal qu'il me pose cette question et je suis même ravi qu'on me pose cette question parce que ça me permet de bien éclairer cette idée essentielle que tel auteur est vivant tant que il y a des êtres vivants qui suivent et qui appliquent et qui inventent grâce à cette pensée. Par exemple, il y a des gens qui sont aujourd'hui des étudiants de Descartes, des professeurs comme Alquier, Ferdinand Alquier, qui était un grand cartésien, un grand étudiant de Descartes, qui a fait énormément pour la philosophie française, ou bien d'autres cartésiens aujourd'hui, eh bien, mais c'est merveilleux parce que ces gens-là sont ceux qui font vivre Descartes. Descartes est vivant parce que eux sont vivants et parce que eux organisent des colloques et discutent et réfléchissent toujours en pensant à partir de Descartes. Donc pour moi, c'est une logique qui s'applique à l'actualité. Nous dirons qu'un penseur est actuel. 2014, 21e siècle, si il y a des chambre-là, il y a effectivement un penseur qui est actuel et vivant. Et peu importe qu'il connaisse le Freud ou pas, c'est pas tellement la question. Bien sûr que ne les connaissons pas, ils perdent une très belle occasion de savoir et de réfléchir. Mais bon, mais ça c'est un autre problème.
Oui. Donc la psychanalyse est bien vivante.
Absolument, absolument.
Et Freud est très actuel.
Très vivante, je répète, parce que nous sommes vivants.
Oui. Et nous en parlons et nous essayons d'en parler le maximum pour faire avancer, progresser, interpréter, vivre la psychanalyse justement. Et nous vivre avec.
Absolument.
Bien. Eh bien écoutez, est-ce que vous avez quelque chose dont vous voudriez parler en plus de ce que nous avons évoqué là pour l'instant?
Eh bien, ce que je voudrais dire... c'est que deux remarques, c'est que en tant que psychanalyste, je suis un représentant de la psychanalyse française en 2014. Oui. Je dois dire que ce qui m'arrive à moi est le résultat, non, c'est pas un phénomène individuel particulier, je suis l'expression, entre autres, de le mouvement de la psychanalyse française depuis 1970 avec Lacan, 1960 avec Lacan. Donc, je considère que tel ou tel collègue qui est un écrivain et qui contribue grandement au développement de la psychanalyse en France, eh bien, lui aussi est une expression de cette et cette psychanalyse qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que chacun a un style qui lui est propre, mais que malgré son style qui est singulier et spécifique, il reste quand même une expression d'un mouvement général. Et c'est ainsi que je me définis comme ayant certes un style qui est le mien, aussi bien dans les thèmes que je traite, dans la manière de les traiter, dans la manière de les écrire, il y a un style qui s'est confirmé petit à petit au fil des ans, depuis les années, comment je dis, depuis mon premier livre, même avant, et que ce style s'est consolidé, maintenant il est devenu une forme, mais au-delà de la... Et la particularité de mon propre style, il y a le fait que je suis, comme d'autres, un représentant de la psychanalyse française. Ça, c'est le premier point important à dire. Un autre point que j'aimerais aussi dire, c'est que souvent, on me dit que de quelle légitimité, de quelle autorité je peux dire que tel patient qui a fini son analyse est un analyste, ou de quelle autorité je peux dire que tel supervisé est un psychanalyste. Eh bien, je le dis, personne ne peut dire qui est un psychanalyste, un autre certes, mais le psychanalyste, comme on disait Lacan, ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres, en particulier de ses aînés. Donc, je m'autorise, je me considère légitime, en position parfaitement légitime d'avoir à soutenir tel collègue plus jeune de dire qu'il est psychanalyste pour la simple raison que je suis le résultat d'une filiation psychanalytique. Et je profite de l'occasion que vous me donnez, Madame Brod, de parler dans la radio Psy chez vous pour dire que ma filiation, dont je suis fier, je voudrais la mentionner parce que cette filiation analytique, c'est celle qui me donne cette légitimité et qui me fait sentir très à l'aise pour dire qui est ou pas un jeune qui devient psychanalyste. Cette légitimité commence avec Freud, qui a analysé Jerome Reich, En fait, Freud n'a pas analysé Theodor Reich. Freud n'a pas voulu analyser Theodor Reich. Theodor Reich a été analysé par Abraham. Freud a analysé Abraham et Abraham a analysé Theodor Reich. Et Theodor Reich a analysé Ángel Garma, qui est un psychanalyste espagnol qui était à Berlin dans les années 30 pour travailler à Berlin. Il était psychiatre, un jeune psychiatre espagnol. Et Ángel Garma va être en analyse avec donc Theodor Reich. Ángel Garma quitte Berlin et passe par la France. C'est passionnant cette histoire. Passe en France, rencontre ici à Paris dans les années 30 et quelques un psychanalyste argentin qui était ici, je dirais, c'était pas tout à fait psychanalyste, c'était un psychiatre qui était ici à Paris et parle et Ángel Garma, qui connaissait déjà l'Argentine, décide, ne pouvant pas retourner en Espagne à cause du problème de la guerre civile, décide d'aller en Argentine, s'installer en Argentine. Et Ángel Garma va en Argentine, c'est là qu'il va fonder l'association psychanalytique argentine avec quelques autres psychiatres. À l'époque, c'était la plupart, c'était psychiatres. Il y avait Madame Langer, qui n'était pas psychiatre. Mais voilà qu'il va analyser un de ses grands personnages, qui est un autre psychiatre, qui s'appelle Enrique Pichon-Rivière. Ángel Garma analyse Pichon-Rivière. Pichon-Rivière analyse un autre grand psychanalyste argentin qui s'appelle Bléger, José Bléger, et José Bléger analyse mon analyste à moi, qui est Emiliano del Campo. Emiliano del Campo m'analyse moi. Ça veut dire que dans cette filiation, il y a, c'est une filiation dont je suis fier de le dire, elle commence avec un des plus grands psychanalystes disciple de Freud, freudien, qui est Theodor Reich. Voilà de quelle légitimité voilà la filiation qui me donne la légitimité d'avoir à transmettre la psychanalyse et à pouvoir aussi jouer un rôle et contribuer au développement de notre communauté psychanalytique.
Intéressant.
Mais, voilà.
Oui. Bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres éléments que vous voudriez apporter à notre connaissance?
Je pense que bon. On a fait un peu le tour des choses.
Oui.
Et voilà. Je pense que c'est bien de cette occasion. Je voulais donc remercier une nouvelle fois Radio Psy chez vous pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'espère que les auditeurs vont profiter de cet échange que nous avons eu, de ce dialogue. Mm-hmm. Et voilà, je vous dis alors à bientôt.
Voilà, merci Dr Nasio pour votre participation sur notre radio et cet éclairage sur votre travail sur l'inconscient et donc votre exemple de la transmission de la psychanalyse.
Voilà.
Au revoir.
Merci. À bientôt.
La psychanalyse vivante, présentée par Sabine Brodès.
Sur radiodespsychezvous.com.